La timide, première partie, chapitre 4. Toujours des projets et des projets. Qui de nous deux commença ? Je n'en sais rien. Ce fut sans doute en germe dès le début. Elle n'était encore que ma fiancée quand je la prévins qu'elle s'occuperait, dans mon bureau, des engagements et des paiements. Elle ne dit rien alors. Remarquez ceci. Mariée, elle se mit même à l'œuvre avec un certain zèle. Le logement, l'ameublement, tout demeura dans le même état. Il y avait deux pièces, l'une pour la caisse, l'autre où nous couchions. Mon ameublement était misérable, inférieur même à celui des tantes de ma femme. Ma niche aux images saintes était dans la chambre de la caisse. Dans celle où nous couchions, il y avait une armoire, où traînaient des effets et quelques livres. J'en gardais la clé. Un lit, une table et des chaises. Dès l'époque où nous étions encore fiancés, je lui avais dit que je n'entendais pas dépenser, par jour, plus d'un rouble pour la nourriture. Les repas de Loukéria compris. Comme je le lui fis savoir, j'avais besoin de 30 000 roubles dans 3 ans, et ne pouvais pas mettre de côté cet argent en me montrant extravagant. Elle ne souffla mot. Et c'est de moi-même que j'augmentai le budget quotidien de 30 copecks. Aussi bien me montrai-je coulant sur la question théâtre. J'avais dit qu'il nous serait impossible d'y aller. Pourtant, je l'y conduisis, une fois par mois, à des places décentes, au parterre. Nous nous y rendions en silence et rentrions de même. Comment se fait-il que, si vite, nous devînmes taciturnes? Il est vrai que j'y étais bien pour quelque chose. Dès que je la voyais me regarder, qu'étant un mot, je renfermais en moi ce que j'aurais dit sans cela. Parfois, elle, ma femme, se montrait expansive, elle avait même des élans vers moi. Mais comme ces élans me paraissaient hystériques, maladifs, et comme je voulais un bonheur sain et solide, sans parler du respect que j'exigeais de sa part, je réservais à ses effusions un accueil très froid. Mais combien j'avais raison. Le lendemain de ces jours de tendresse, il ne manquait jamais d'y avoir une dispute. Non, pas de dispute, une attitude insolente de sa part. Oui. Ce visage, naguère timide, prenait une expression de plus en plus arrogante. Je m'amusais alors à me rendre aussi odieux que je pouvais, et je suis sûr que plus d'une fois je l'ai exaspérée. Pourtant, voyons, elle n'avait pas raison. Je savais que c'était la pauvreté de notre vie qui l'excitait. Mais ne l'avais-je pas tirée de la boue? J'étais économe et non point avare. Je faisais les frais nécessaires. Je consentais même à de petites dépenses pour le superflu, pour le linge, par exemple. La propreté chez le mari est agréable à la femme. Je me doutais qu'elle se disait « Il fait montre d'économie systématique, pose pour l'homme qui a un but, fait parade de la fermeté de son caractère. » Ce fut elle-même qui renonça aux soirées de théâtre, mais elle eut un sourire de plus en plus moqueur. Moi, je m'enfermais dans le silence. Elle m'en voulait aussi de ma caisse de prêt. Mais enfin, une femme vraiment aimante arrive à excuser les vices même de son mari. À plus forte raison, une profession peu décorative. Mais celle-là manquait d'originalité. Les femmes manquent souvent d'originalité. Est-ce que c'est original ce qui est là sur la table? Oh! Et alors, j'étais convaincue de son amour. Ne se jetait-elle pas souvent à mon cou? Si elle le faisait, c'est qu'elle m'aimait, ou enfin qu'elle cherchait à m'aimer. Alors quoi? Étais-je un si grand coupable parce que j'étais prêteur sur gage? Prêteur sur gage! Prêteur sur gage! Mais ne pouvait-elle deviner qu'il y avait des raisons pour qu'un homme d'une noblesse authentique, d'une haute noblesse, fût devenu prêteur sur gage? Les idées, messieurs, voyez ce que deviendra telle idée si on l'exprime à l'aide de certains mots. Ce sera idiot, messieurs, ce sera idiot. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous des buses et ne tolérons pas la vérité. Est-ce que je sais, du reste ? Sacre bleu ! N'avais-je pas le droit de vouloir assurer mon avenir en ouvrant cette caisse ? Vous m'avez renié, vous ! Vous, ce sont les hommes. Vous m'avez chassé quand j'étais plein d'amour pour vous. À mon dévouement, vous avez répondu par une injure qui me déclasse pour toute ma vie. N'avais-je pas le droit, alors, de mettre plus tard l'espace entre vous et moi, de me retirer quelque part avec 30 000 roubles? Oui, dans le sud, en Crimée, n'importe où, dans une propriété achetée avec ces 30 000 roubles, loin de vous, avec un idéal dans l'âme. Une femme aimée près de mon cœur et une famille, si Dieu le voulait. J'aurais fait du bien aux paysans autour de moi. Mais voyez, cela est très beau comme je le raconte. Et si je le lui avais dit, à elle, c'eût été imbécile. C'est pour cela que je me taisais fièrement. Aurait-elle compris, à 16 ans, avec la cécité, la fausse magnanimité des belles âmes? Ah, cette belle âme! Elle était mon tyran, mon bourreau. Je serais injuste pour moi-même si je ne le criais pas. Ah, la vie des hommes est maudite, la mienne plus que les autres. Et qu'y avait-il de répréhensible dans mon plan? Tout y était clair, net, honorable, pur comme le ciel. Sévère, fier, dédaigneux des consolations humaines, je souffrirais en silence. Je ne mentirais jamais. Elle verrait ma magnanimité à moi, plus tard, quand elle comprendrait. Alors, elle tomberait à genoux devant moi. C'était là mon plan. J'oubliais quelque chose. Mais non, là, je ne pouvais pas. Assez, assez. Courage, homme, sois fier. Ce n'est pas toi qui es coupable. Et je ne dirai pas la vérité. C'est elle qui est coupable. C'est elle. Chapitre 5. La timide se révolte. Les disputes éclatèrent. Elle voulut faire des prix à elle et surévalua les objets engagés. Il y eut surtout cette maudite veuve de capitaine. Elle arriva pour emprunter sur un médaillon, un cadeau de feu son époux. J'en donnai 30 roubles. Elle pleurnicha pour qu'on lui conservât l'objet. Mais sacristie, oui, nous le lui garderions. Elle voulut, quelques jours après, l'échanger contre un bracelet qui valait bien 8 roubles. Je refusai net, comme de juste. Sans doute, la gredine dut voir quelque chose dans les yeux de ma femme, car elle revint en mon absence, et ma femme lui rendit le médaillon. Quand je sus l'affaire, je tâchai de raisonner ma prodigue tout doucement, bien sagement. Elle était, à ce moment, assise sur son lit. Sa petite bottine battait le parquet sur lequel elle tenait les yeux fixés. Elle avait encore son mauvais sourire. Comme elle ne voulait pas me répondre, je lui fis observer bien gentiment que l'argent était à moi. Elle sauta brusquement sur ses pieds, tressaillit toute et se mit à trépigner. C'était comme une bête enragée. Messieurs, une bête au paroxysme de la furie. J'en fus abruti d'étonnement. Pourtant, de la même voix tranquille, je signifiais que dorénavant elle ne prendrait plus part à mes opérations. Elle me rit au nez et sortit de notre logement. Il était cependant, bien entendu, qu'elle ne quitterait jamais la maison sans moi. C'était l'un des articles de notre pacte. Elle revint le soir et je ne lui adressai pas un seul mot. Le lendemain, elle sortit de même, le surlendemain également. J'ai fermé ma caisse et j'ai été trouver les tantes. Je ne les voyais plus depuis le mariage, chacun chez nous. Ma femme n'était pas chez elle et elles se moquèrent de moi. Parfait. Mais pour 100 roubles, je sus de la cadette tout ce que je voulais savoir. Elle me mit au courant le surlendemain. « Le but de la sortie, me dit-elle. « C'est un certain lieutenant Efimovitch, un camarade de régiment à vous. » Cet Efimovitch avait été mon ennemi acharné. Depuis quelque temps, il affectait de venir engager différentes choses chez moi et de rire avec ma femme. Je n'attachais à cela aucune importance. Je l'avais seulement prié une fois d'aller engager ses bibelots ailleurs. Je ne voyais là que de l'insolence de sa part. Mais la tante me révéla qu'ils avaient déjà eu un rendez-vous et que tout cela était manigancé par une de ses connaissances, une nommée Julia Samsonovna, veuve d'un colonel. « C'est donc chez cette Julia que votre femme va ?» J'abrège. Mes démarches me coûteront 300 roubles. Mais, grâce à la tante, je pus me placer de manière à entendre ce qui se dirait entre ma femme et l'officier au rendez-vous suivant. Mais j'oublie qu'avant le jour où je devais être édifiée, une scène eut lieu chez nous. Ma femme rentra un soir et s'assit sur son lit. Elle avait une expression de figure qui me fit souvenir que depuis 2 mois, elle n'avait plus son caractère ordinaire. On eût dit qu'elle méditait une révolte et que sa timidité seule l'empêchait de passer de l'hostilité muette à la lutte ouverte. Enfin, elle parla. « Est-ce vrai qu'on vous a chassé du régiment parce que vous aviez eu peur de vous battre en duel ?» demanda-t-elle sur un ton violent. Ses yeux étincelaient. « C'est vrai, les officiers m'ont prié de quitter le régiment, bien que j'eusse déjà présenté ma démission écrite. »« On vous a chassé pour poltronnerie ?» On a eu en effet le tort de mettre ma conduite sur le compte de la poltronnerie. Mais si j'avais refusé un duel, ce n'était pas que je fusse lâche, mais bien parce que j'étais trop fière pour me soumettre à je ne sais quelle sentence qui m'obligeait à me battre, alors que je ne me considérais pas comme offensée. Je faisais preuve d'un bien plus grand courage en n'obéissant pas à un despotisme abusif qu'en allant sur le terrain avec n'importe qui. Il y avait là comme une espèce d'excuse. C'était ce qu'elle voulait. Elle se mit à rire méchamment. « Est-ce vrai qu'ensuite vous ayez battu le pavé de Pétersbourg pendant 3 ans comme un vagabond, que vous avez mendié et couché la nuit sous des billards ?»« J'ai aussi dormi dans l'asile de nuit de Vyazemski. J'ai connu de vilains jours de dégringolade après ma sortie du régiment. » J'ai su ce que c'était que la misère, mais j'ai toujours ignoré la déchéance morale. Et vous voyez que la chance a tourné. Oh, maintenant vous êtes une sorte de personnage, un financier. C'était une allusion à ma caisse de prêt, mais je sus me retenir. Je vis qu'elle avait soif de détails humiliants pour moi et eut soin de ne pas en donner. Un client sonna fort à propos. Une heure plus tard, elle s'habilla pour sortir, mais avant de s'en aller, elle s'arrêta devant moi et me dit « Et vous ne m'aviez rien raconté de tout cela avant notre mariage ?» Je ne répondis pas et elle sortit. Le lendemain, j'étais derrière la porte de la pièce où elle se trouvait avec Efimovitch. J'avais un revolver dans ma poche. Je pus les voir. Elle était assise, tout habillée, près de la table, et Efimovitch faisait le pan devant elle. Il n'arriva que ce que je prévoyais. Je me hâte de le dire pour mon honneur. Ma femme avait, certes, médité de m'offenser de la façon la plus grave. Mais, au dernier moment, elle ne pouvait se résigner à une pareille chute. Elle finit même par se moquer du lieutenant, par l'accabler de sarcasme. Le mauvais drôle, tout décontenancé, s'assit. Je répète, pour mon honneur, que je m'attendais à cette conduite de sa part. Je n'étais allé là que sûr de la fausseté de l'accusation, bien que j'eusse mon revolver sur moi. Certes, je ne pus que trop savoir à quel point elle me haïssait, mais j'eus aussi la preuve de son absolue pureté. Je coupai court à la scène en ouvrant la porte. Efimovitch sursauta. Je pris ma femme par la main et l'invitai à quitter la pièce avec moi. Retrouvant sa présence d'esprit, Efimovitch se tordit de rire. « Oh, oh !» fit-il en s'esclaffant. « Je ne proteste pas contre les droits sacrés de l'époux. Emmenez-la, emmenez-la !» Mais, et il se rapproche de moi, un peu calmé. « Bien qu'un honnête homme ne doive pas se battre avec vous, je me mets à vos ordres, par pur respect pour madame, si toutefois vous consentez à risquer votre peau. » « Vous entendez ?» dis-je à ma femme, et je la fis sortir avec moi. Elle ne m'opposa aucune résistance. Elle semblait terriblement frappée, mais l'impression chez elle dura peu. En rentrant chez nous, elle reprit son sourire ironique, bien qu'elle fût encore pâle comme une morte et qu'elle eût la conviction que j'allais la tuer. J'en jurerais. Mais je tirai simplement mon revolver de ma poche et le jetai sur la table. Ce revolver, notez-le bien, elle le connaissait. Elle le savait toujours chargé à cause de ma caisse. Parce que chez moi, je ne veux ni chien de garde monstrueux, ni valet géant, comme celui de Mosée, par exemple. C'est la cuisinière qui ouvre à mes clients. Toutefois, une personne de notre profession ne peut rester sans un moyen de défense quelconque. D'où le revolver. Elle le connaît, ce revolver, ma femme. Retenez bien cela. Je lui en ai expliqué le mécanisme. Je l'ai même fait une fois tirer avec à la cible. Elle demeurait très inquiète, je le voyais bien, debout sans songer à se déshabiller. Au bout d'une heure, pourtant, elle se coucha, mais toute vêtue, sur un divan. C'était la première fois qu'elle ne partageait pas mon lit. Notez encore ce détail. Chapitre 6. Un souvenir terrible. Je m'éveillai vers 8 heures le lendemain matin. La chambre était très claire. Je vis ma femme debout, près de la table, tenant à la main le revolver. Elle ne s'aperçut pas que j'étais éveillée et que je regardais. Tout à coup, elle s'approcha de moi, tenant toujours le revolver. Je fermai vite les yeux et feignis de dormir profondément. Elle vint jusqu'au lit et s'arrêta devant moi. Elle ne faisait aucun bruit, mais j'entendais le silence. J'ouvris encore les yeux, malgré moi, mais à peine. Ses yeux rencontrèrent mes yeux, que je refermai vite, résolu à ne plus bouger, quoi qu'il dût m'advenir. Le canon du revolver était appuyé sur ma tempe. Il arrive qu'un homme endormi ouvre les paupières quelques secondes, sans s'éveiller pour cela. Mais qu'un homme éveillé referme les yeux après ce que j'avais vu, c'est incroyable, n'est-ce pas? Elle put cependant, peut-être, s'apercevoir de quelque chose. Oh, le tourbillon de pensées qui fit rage dans ma malheureuse tête! Si elle a compris, me disais-je, ma grandeur d'âme l'écrase déjà. Que pense-t-elle de mon courage? Accepter ainsi de recevoir la mort de sa main sans une tentative de résistance, évidemment sans effroi, c'est sa main qui va trembler. La conscience que j'ai vu tout peut arrêter son doigt déjà posé sur la gâchette. Le silence continua. Je sentis le froid canon du revolver s'appuyer plus fortement sur ma tempe, près de mes cheveux. Vous me demanderez si j'ai eu l'espoir d'une chance de salut. Je vous répondrai, comme devant Dieu, que je voyais tout au plus une chance d'échapper à la mort contre 100 chances de recevoir le coup fatal. Alors, je me résignais à mourir, me demanderez-vous encore. Eh, vous répondrai-je, que valait la vie du moment que c'était l'être adoré qui voulait me tuer? Si elle a deviné que je ne dormais pas, elle a compris l'étrange duel qu'il y avait alors entre nous deux, entre elle et le poltron, chassé par ses camarades de régiment. Peut-être n'y avait-il rien de tout cela. Peut-être même n'ai-je pas pensé tout cela sur l'instant. Mais alors, Comment se ferait-il que je n'ai guère pensé à autre chose depuis ? Vous me poserez encore une question. Pourquoi ne la sauvais-je pas de son crime ? Plus tard, je me suis interrogée bien des fois à ce sujet. Quand la remembrance me glaçant encore, je songeais à ce moment. Mais comment pouvais-je la sauver, moi qui allais périr ? Le voulais-je seulement ? Qui dira ce que j'ai senti alors ? Pourtant, les moments passaient. Le silence était mortel. Elle était toujours debout auprès de moi et, brusquement, un espoir me fit tressaillir. J'ouvris les yeux. Elle n'était plus dans la chambre. Je sautai droit sur mes pieds. J'étais vainqueur. Elle était vaincue à jamais. J'allai prendre le thé. Je m'assis en silence à la table. Tout à coup, je la regardais. Elle aussi, plus pâle encore qu'hier, me regardait. Elle eut un sourire indéfinissable. Je lus un doute dans ses yeux. Sait-il, oui ou non ? A-t-il vu ? J'ai détourné mes regards avec une affection d'indifférence. Après le thé, je fermai ma caisse. Je m'en fus au bazar acheter un lit de fer et un paravent. Je fis poser ce lit dans le salon et l'entourai du paravent. C'était pour elle, ce lit, mais je ne lui en dis rien. Elle, en le voyant, comprit que j'avais tout vu. Plus de doute. La nuit suivante, je laissai mon revolver sur la table comme à l'ordinaire. Elle se coucha en silence dans son nouveau lit. Le mariage était rompu. Elle était vaincue et non pardonnée. Cette même nuit, elle eut le délire. Elle garda le lit 6 semaines. C'est mon revolver sur la table comme à l'ordinaire. Elle se coucha en silence dans son nouveau lit. Le mariage était rompu. Elle était vaincue et non pardonnée. Cette même nuit, elle eut le délire. Elle garda le lit 6 semaines.